C'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Que deviennent les ménages expulsés de leur logement 3 ans plus tard? C'est une étude inédite que vous dévoile France Inter ce matin à la veille de la fin de la trêve hivernale. Perte d'emploi, de confiance en soi et même parfois passage par la rue. L'expulsion, vous l'entendrez, est vécue comme une rupture majeure. Elle a attendu. Il n'est jamais venu le soutien de Nicolas Sarkozy. Nouveau coup dur pour Valérie Pécresse. L'ancien président ne participera pas au grand meeting de la candidate LR ce dimanche. Précision à suivre. Dans ce journal aussi, la réaction prudente du président ukrainien après une première avancée dans les négociations hier. Et au cinéma, ce mercredi, le destin contrarié d'une danseuse étoile, un film signé Clapiche.
Et au micro de Léa Salamé à 7h50, aujourd'hui, la grande reporter Solène Chalvon-Fioriti, elle publie La femme qui s'est éveillée, une histoire afghane. C'est chez Flammarion. Après 5 mois de trêve hivernale, Alexis, les expulsions locatives vont reprendre cette semaine.
Légalement, en tout cas, elles seront de nouveau possibles dès vendredi matin. L'occasion choisie par la Fondation Abbé Pierre pour s'intéresser aux conséquences de ces expulsions sur la vie des ménages concernés. C'est la toute première étude du genre que France Inter vous dévoile ce matin en avant-première. 60 personnes suivies sur le long terme après le départ forcé de leur logement. Résultat, 3 ans plus tard, un tiers n'a toujours pas d'habitat fixe et 10% sont passés par la rue. Les impacts psychologiques et professionnels sont majeurs. Explication d'Agnès Soubiran avec Claire Chaudière.
Il y a d'abord l'humiliation et le stress que constitue l'expulsion. Laura, étudiante avec un petit boulot au moment des faits, en litige avec son bailleur sur le versement de ses APL, décrit l'angoisse pendant des semaines avant le jour J.
Je ne sortais plus de chez moi. Je restais là à les attendre pour pouvoir m'expliquer. Je dormais pas beaucoup la nuit.
Puis la manière dont les choses se sont passées.
Au lieu de débrancher les fils, par exemple, de mon ventilateur ou de ma télé, il est coupé directement. Ils ont pris un ciseau, ils ont tout coupé, quoi. C'est violent.
Comme environ la moitié des ménages suivis, elle a connu la débrouille, dormant chez une amie pendant plus de 6 mois. Résultat, une fragilisation morale, sociale et financière.
J'ai perdu mon travail aussi à ce moment-là. J'ai pas pu continuer. J'ai pas le sentiment d'avoir vraiment rebondi parce que je suis toujours dans une situation un peu précaire.
L'expulsion a des effets de rupture fortes.
Pour Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre, l'étude conduite par plusieurs chercheurs est très claire.
Des effets forts sur la santé, sur la scolarité, sur l'emploi, sur l'estime de soi. Dans 29% des cas, l'expulsion entraîne une interruption de l'activité. Et on voit que remonter la pente est extrêmement douloureux, extrêmement difficile et que c'est aléatoire, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a encore un tiers des ménages, 3 ans après, qui sont toujours en errance.
Et lorsqu'une solution pérenne est trouvée, c'est souvent dans le parc social, ajoute l'étude, avec une nette amélioration des conditions de logement, mais malgré tout, d'importantes séquelles liées au mois d'errance.
Et juste avant la fin de cette trêve hivernale, la Fondation Abbé Pierre appelle par ailleurs tous les fournisseurs d'énergie à imiter EDF. EDF qui s'est engagé à ne plus couper l'électricité en cas d'impayé.
France Inter, il est 7h33, un revers de plus, Alexis, dans une campagne qui n'avait pas besoin de ça.
Après sa pause forcée pour Covid et déjà plombée par des sondages en Berne, Valérie Pécresse ne pourra même pas compter sur Nicolas Sarkozy. Cela fait des mois que la candidate LR à la présidentielle espère en vain le soutien de l'ancien chef de l'État. On apprend ce matin qu'il ne participera pas au grand meeting de dimanche à Paris. Information dévoilée par nos confrères du Parisien que vous avez pu vous faire confirmer, Anne Souhaitemont.
C'est un silence qui aura marqué la campagne. Son absence ternira sans doute la fête de dimanche. Invité, Nicolas Sarkozy ne s'affichera pas aux côtés de Valérie Pécresse, porte de Versailles. Tout un symbole, il y avait été désigné candidat de la droite avant de l'emporter en 2007. Faut-il y voir un lâchage? Il est en dehors de tout ça et depuis le début de la campagne, minimise un proche de l'ancien président. C'est son choix en caisse acide, l'entourage de Valérie Pécresse. Si l'équipe de campagne continuait d'espérer une sortie du silence, en privé, ils étaient rares à y croire. Dès le départ, Valérie l'a vexé en ne citant que Jacques Chirac. Mais en réalité, personne ne trouve grâce aux yeux de Nicolas, décrypte un membre de l'équipe de campagne. Il était furieux qu'elle parle de ressortir le Karcher et pointe du doigt l'un de ses échecs, avance un autre. Persuadé que Nicolas Sarkozy n'attend que la qualification d'Emmanuel Macron au second tour pour lui apporter son soutien, pas un meurtre, mais un assassinat prémédité de sa famille politique s'agace d'avance un député.
Et à 11 jours du premier tour de cette présidentielle, étape à Besançon aujourd'hui pour 6 des 12 candidats. Grand oral devant 1500 agriculteurs de la FNSEA, le premier syndicat du secteur. Parmi eux, Jean Lassalle, l'autoproclamé représentant de la ruralité dans cette campagne. Dans son programme, il veut rediriger l'argent de la PAC vers les petits agriculteurs, interrompre les négociations sur les traités de libre-échange ou encore développer des tickets paysans pour les achats en circuit court. Philippe Poutou, lui, souhaite interdire les licenciements aux entreprises qui font des bénéfices. C'est une mesure phare du candidat NPA. Son porte-parole, Olivier Besancenot, l'a détaillé hier soir en citant un exemple récent.
C'est une loi qui, en effet, propose de le faire d'abord dans ces entreprises qui font des bénéfices et qui licencient quand même. Et ensuite, on pense que c'est aux plus grandes entreprises de payer pour les plus petites, parce qu'on fait une différenciation de ce qui se passe au sein même du monde dans l'entreprise. La plupart des petites entreprises dépendent de donneurs d'ordre, qui sont souvent des grands groupes. Donc, dans ces cas-là, on serait pour une nouvelle branche de la sécurité sociale qui fait que, quand une usine ferme, eh bien, en tous les cas, il n'y a pas de baisse de rémunération. Il y a le maintien de l'emploi et de la qualification. C'est une nouvelle branche de la sécurité sociale, mais qui passe aussi par un partage des richesses.
Le porte-parole de Philippe Poutou, Olivier Besancenot, hier soir aux 20h de France 2. C'est la troisième attaque en une semaine en Israël. 5 morts hier soir dans la banlieue de Tel Aviv. Un tireur a ouvert le feu sur des passants. Selon les médias locaux, il s'agit d'un Palestinien de 26 ans. Face à cette nouvelle vague de violence, la police israélienne annonce se placer en mode contre-terrorisme. Attentat condamné par les États-Unis, l'ONU, mais aussi par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Les mouvements de troupes russes scrutés de près ce matin en Ukraine, vont-elles vraiment reculer dans certaines régions après les négociations d'hier à Istanbul? Les Occidentaux sont plutôt sceptiques, même si pour la première fois depuis le début du conflit, les discussions semblent avoir progressé. L'espoir est mince, mais il existe bel et bien, y compris dans la bouche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a réagi dans la soirée, Virginie Pironon.
Avec tous les guillemets qui s'imposent, la partie russe a promis hier, je cite, de radicalement réduire son activité militaire en direction de Kiev, la capitale. Face à cette bonne volonté apparente, le président ukrainien Volodymyr Zelensky répond que l'Ukraine ne relâchera pas ses efforts militaires.
Les signaux que nous entendons dans les négociations sont positifs, mais ils ne font pas oublier les explosions ou les obus russes.
Hors de question pour le président ukrainien de croire sur parole un État qui continue à se battre contre l'Ukraine avec l'intention, dit-il, de détruire le pays.
La situation n'est pas plus facile. L'ennemi est toujours sur notre territoire. Les bombardements de nos villes se poursuivent. Mariupol est bloqué. Les missiles et les frappes aériennes ne cessent pas. C'est une réalité. Ce sont les faits.
Hier soir, Washington affirmait en effet observer un repositionnement des forces russes autour de Kiev, mais pas de vrai retrait. Et concernant une évacuation humanitaire de la ville de Mariupol, sujet abordé un peu plus tôt au téléphone entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, le chef du Kremlin a déclaré que c'était d'abord, je cite, aux nationalistes ukrainiens de déposer les armes.
Virginie Pironon, dans ce contexte, l'avertissement de Washington aux ressortissants américains vivant en Russie. Les tensions sont si fortes avec Moscou qu'ils risquent à tout moment, je cite, des arrestations arbitraires sur le sol russe. Il y a bien un endroit où Américains et Russes vivent toujours ensemble, malgré la guerre, c'est la Station Spatiale Internationale. Un astronaute américain et deux cosmonautes russes doivent justement redescendre sur Terre aujourd'hui à bord d'une capsule Soyouz. Elle atterrira dans l'après-midi au Kazakhstan. Alors comment ça peut se passer alors que toutes les coopérations sont suspendues aussi dans l'espace? Le protocole est inchangé, promettent les agences spatiales. Mais drôle d'ambiance tout de même, Sophie Becherel.
Se regardent-ils en chien de faïence? Conservent-ils des relations fraternelles, coutumières dans l'espace? Se reverront-ils après des mois passés en milieu clos? Ce sont des secrets bien gardés. La NASA met en avant la durée record du séjour de Marc Vandenaille, quasiment un an d'affilée dans l'ISS, et le nombre d'expériences scientifiques réalisées. Les cosmonautes russes, de leur côté, ne tweetent plus rien depuis l'invasion de l'Ukraine. La règle veut que le vaisseau avec lequel on est arrivé dans la station spatiale soit celui avec lequel on rentre à la maison. Après l'atterrissage au Kazakhstan, où l'attendront des collègues de la NASA, direction la maison pour l'astronaute américain, avec un protocole à peine changé, selon Frank DeWin, le chef des astronautes européens à l'ESA.
Il va retourner aux États-Unis, comme d'habitude. Naturellement, le plan de vol est un peu changé parce qu'on ne survole pas la Russie et l'Ukraine pour le moment. Donc, au lieu de prendre la route vers le nord, ils prennent la route via le sud. Mais OK, pour le reste, il n'y a rien d'autre qui a changé.
En dépit des propos provocateurs du patron de l'agence spatiale russe sur Twitter, il menaçait de laisser tomber la station. Consigne a été donnée de se comporter en professionnel. C'est pour la suite que l'incertitude demeure. Le mariage tiendra-t-il jusqu'en 2030 ou bien Combien la NASA va-t-elle se résoudre à recentrer ses vols habités sur le programme Artemis de retour sur la Lune quand les Russes se rapprocheraient des Chinois? Au milieu, les partenaires européens et canadiens de l'ISS sont en situation bien inconfortable.
En France, ces explications sont très attendues par les députés. 10 jours après la mort d'Ivan Colonna, le directeur de la prison d'Arles est auditionné ce matin par la commission des lois de l'Assemblée. Il doit détailler les circonstances de l'agression début mars du militant indépendantiste corse et assassin du préfet Erignac. En pleine séance de sport, un co-détenu radicalisé s'en est pris à lui pendant 8 longues minutes sans qu'aucun surveillant n'intervienne. Après Paris, Lyon passe aujourd'hui aux 30 km/h maximum dans la grande majorité de ses rues. 84% de la voirie lyonnaise est concernée par cet abaissement de la vitesse, contre un tiers jusque-là. Pour la mairie, c'est un moyen de réduire les accidents graves.
Il est 7h40 quand Cédric Clapiche met la danse sur grand écran.
C'est le choix du service culture d'Inter en ce jour de sortie cinéma. Encore, en deux mots, corps comme le corps humain, l'histoire d'une danseuse étoile gravement blessée à la cheville qui part se mettre au vert en Bretagne. C'est le 14e long métrage du réalisateur de l'Auberge espagnole. Et ce film a tous les ingrédients pour séduire un large public, Alexis de Meyer.
Immédiatement après une déception sentimentale, Élise monte sur la scène de l'Opéra de Paris, mais sa cheville craque. Et elle avec. Débute alors une longue phase de reconstruction, aussi bien physique que psychologique.
Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui, repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien.
Écœurée par ce mauvais coup du sort, Élise tourne le dos à la danse et se réinvente en serveuse dans une résidence d'artistes bretonne. Vraie ballerine mais comédienne débutante, Marion Barbeau crève l'écran, bien épaulée il est vrai par Muriel Robin, Denis Podalydès, François Civil et Pio Marmaille.
Pour moi, quand tu mets un tutus, c'est cucu.
Qu'est-ce que tu connais, toi ?
La mise en scène de Clapiche est ici étonnamment sobre, lui qui affectionne parfois les récits sinueux et les plans surchargés. Le cinéaste a donc su trouver le ton juste pour ce film tout en finesse, dont les séquences de danse sont particulièrement inspirées. La présence du chorégraphe Ofech Schechter dans son propre rôle apporte d'ailleurs un supplément d'âme et une belle ouverture sur le monde de la danse contemporaine.
Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie.
Encore de Cédric Clapiche, un film France Inter en salle aujourd'hui.
Merci Alexis Morel. L'édito politique dans quelques instants sur Inter.